Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, l'émission de l'association Picassoft qui s'est donnée pour mission d'héberger des services libres et respectueux de la vie privée et de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et à une approche libre, éthique et inclusive des technologies numériques. Aujourd'hui, je suis avec Quentin et Romain de Picassoft. Salut à vous.
Salut Audrey.
Et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Calimac. Bonjour Calimac.
Bonjour.
Alors Calimac, on te connaît aussi donc sous le nom de le vrai nom de Lionel Morel, et les auditeurs de La Voix est libre te connaissent déjà puisque on a eu plaisir de te recevoir déjà à l'UTC pour une série de vidéos sur le droit d'auteur, sur les licences libres, et puis on a utilisé ces extraits dans une autre émission de La Voix est libre qui était donc sur les licences libres, qui s'appelait Hacker le droit d'auteur avec des licences libres, menée donc avec Stéphane, Quentin, Rémi et Romain. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur un autre sujet dans lequel tu es engagé, et c'est celui des communs numériques. Alors, Calimac, donc tu es juriste de formation, tu es également bibliothécaire. On te connaît donc avec le pseudo Calimac sur ton blog, donc tu es blogueur sur le blog Silex. Silex. Et puis, donc, tu es engagé dans plusieurs collectifs que tu as aussi cofondés. Tu as fondé le collectif Savoir Commun, qui est consacré donc aux politiques des communs de la connaissance. Et puis également, tu participes donc à un autre site sur ce sujet, Les Communs d'abord. Et tu es également membre fondateur de la Quadrature du Net. Alors, ça fait beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que chaque activité, qu'est-ce que chaque casquette t'apporte pour réfléchir sur les communs et puis agir dans leur promotion?
D'abord, je dirais que mon premier métier, c'était d'être bibliothécaire.
Oui.
Ça peut paraître anodin, mais moi, ça m'a beaucoup sensibilisé aux questions du partage de la connaissance. Et ça m'a aussi beaucoup sensibilisé aux restrictions qui pèsent sur le partage de la connaissance. Parce qu'autant c'est simple de faire des bibliothèques, autant c'est assez bien balisé de faire des bibliothèques physiques avec des livres tangibles, autant faire la même chose sur Internet est beaucoup plus compliqué. Pour des tas de raisons, hein, dont on reparlera peut-être après. Et donc du coup, moi j'étais juriste aussi à la base et ça m'a... Le droit, moi, ça m'a sensibilisé très rapidement aux questions de propriété intellectuelle. Et c'est par là que je suis tombé sur les questions de logiciels libres et de tous ces courants, ces mouvements qui essaient de partager des connaissances sur Internet. Et un peu plus tard, j'ai découvert ce qu'on appelle la théorie des communs. Qui vient à la base du champ de l'économie et qui m'a paru vraiment apporter une couche de sens supplémentaire par rapport aux pratiques de partage et à toute la dynamique de la culture libre. Et ça m'a donné envie donc de fonder avec d'autres hein, le collectif Savoir Commun où pendant plusieurs années on a agi. On a agi en direction des institutions publiques pour leur demander de favoriser la création de communs sur Internet, de communs numériques.
D'accord.
Et tout ça a fini par c'était déjà là avant, mais de me faire comprendre que Internet en soi, c'est une ressource extrêmement précieuse, mais qui mérite d'être sérieusement défendue, et nos libertés sur Internet méritent d'être défendues. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la Quadrature du Net, d'abord sur les questions de droit d'auteur, et maintenant plus largement sur les questions de protection de la vie privée, lutte contre la surveillance, lutte contre la censure et tous les sujets que la Quadrature traite.
D'accord. Donc, oui, en effet, ce sont des sujets qui se recoupent au niveau des communs numériques et puis de nos libertés d'expression et puis de partage donc, de la connaissance. Et donc, toi, finalement, donc, tu as commencé par une approche donc, des communs numériques avant de retourner sur la notion des communs, hein, pour comprendre l'idée de base, hein, c'est ça?
C'est ça, oui.
D'accord.
Oui, moi j'ai eu une première expérience, on va dire, d'abord par l'entrée numérique.
Oui.
Mais bon, les communs, c'est quelque chose de beaucoup plus large, hein, qui est d'ailleurs pas forcément numérique. Hein. Ça peut couvrir beaucoup de choses différentes.
Oui, d'accord. Mais à ce propos, Donc on peut faire la distinction, c'est vrai, entre des communs que l'on va dire tangibles, des communs naturels, des communs plus immatériels, numériques, etc. Mais tu expliquais dans une précédente émission, hein, tu es passé, tu as fait une conférence par exemple à France Culture où tu expliquais que il faut qu'on fasse attention justement sur la notion de commun numérique, à dire que cette distinction entre du commun matériel et du commun immatériel n'est pas forcément la plus pertinente pour comprendre comment ensuite on doit être en mesure de défendre les communs numériques. Et en effet, pourquoi est-ce que c'est si important au niveau des communs numériques de ne pas les penser que comme un bien immatériel? Et donc, comment est-ce qu'on doit rediriger ensuite notre action pour la défense des communs numériques?
Ce type de réflexion, ça m'est venu de la lecture d'une chercheuse américaine qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur les communs en 2009, le prix Nobel d'économie. Et elle a eu le prix Nobel pour avoir réussi à montrer que la gestion d'une ressource en partage peut, à certaines conditions, être efficace et plus efficace que la gestion par le marché ou par l'État. Et elle a montré que des communautés auto-organisées étaient capables de prendre soin de ressources dans le temps, de les entretenir à condition qu'ils respectent certains principes, et notamment des principes de gouvernance démocratique. Bon, chose qui, voilà, quand on les met tous ensemble, qui sont très importantes. Et elles, son entrée, en fait, dans les communs, c'était pas le numérique, c'était les communs naturels, c'est-à-dire étudier les pratiques de gestion partagée, de pâturage, de forêt, de cours d'eau, de réserves de poissons, voilà, des choses de ce type. Donc, pas du tout des choses immatérielles. Et plus tard, à la fin de sa vie, elle s'est intéressée très fortement à la connaissance et à Internet. Et elle a constaté que les principes qu'elle avait mis en lumière pour les communs dits naturels, étaient en partie transposables pour ce qui se passait sur Internet. Et notamment, elle s'est beaucoup intéressée à la question du logiciel libre, à la question du partage des articles scientifiques par les chercheurs et à des sujets de ce type. Et moi, ce que j'ai, à un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que on avait un petit peu trop oublié qu'elle, Ostrom, elle pensait toujours en fait à ce qu'elle appelle les infrastructures dans les communs, et elle les pensait aussi pour les communs numériques. Et c'est pour ça que moi j'aime plus trop parler de communs immatériels ou de communs intangibles, parce qu'en fait, même pour des choses dites numériques, il y a toujours en fait une infrastructure physique, et cette infrastructure physique, elle est cruciale. Là, on est en train d'enregistrer un truc sur Internet, enfin, cette petite interview sur Internet. Je suis sur mon PC, qui est tout à fait tangible, hein. Notre communication, elle passe par des câbles qui sont tout à fait physiques et matériels, hein. Et tout ça a une importance cruciale, en fait, hein. Les gens, par exemple, les fournisseurs d'accès Internet associatifs, connaissent très bien cette problématique parce qu'eux, ils tirent des câbles, voilà, ils connaissent très bien cette matérialité du numérique qu'on a tendance à oublier. Et c'est important de s'en souvenir parce que toute cette matérialité, elle a aussi un coût écologique qui est considérable en fait. Le coût de l'infrastructure physique du numérique, elle est considérable. Donc l'oublier, ça peut nous conduire à des occultations très très graves en fait, je trouve.
D'accord, oui, ce n'est pas qu'une question de concept, de simplification à outrance des concepts, c'est vraiment en fonction ensuite de comment ça va rediriger nos actions et ensuite comment on va pouvoir essayer justement d'avoir une gestion des communs numériques qui va tendre vraiment concrètement vers une préservation plus soutenable après des ressources qui servent justement à nos technologies numériques. Et à ce propos, donc Elinor Ostrom se focalise vraiment sur la notion de gouvernance et puis sur les règles qui peuvent permettre justement d'entretenir les communs, hein, qu'ils soient numériques ou non. Et d'ailleurs, quand on a étudié un petit peu, forcément, on allait voir, notamment par rapport à la gestion donc, du collectif en particulier, je pense à savoir comment, de ton collectif, c'est vrai qu'il y a des règles de fonctionnement qui sont très précises, qui sont bien établies, expliquées dans un manifeste, etc. Donc, est-ce que c'est ça, par exemple, un exemple d'institutionnalisation selon Elinor Ostrom qui permet d'entretenir un commun, un collectif comme celui des savoirs communs?
Oui, elle a eu son prix Nobel justement pour avoir montré que les communs, ça marche quand ça arrive à devenir des institutions qui sont capables en fait de se gouverner, de s'auto-gouverner. Et elle a dissipé en fait une sorte de malentendu qu'il y avait avant dans la théorie économique où les économistes avaient tendance à dire que la gestion en commun ou en partage des ressources conduisait fatalement à leur destruction, parce que chacun serait, ce qu'on appelle la tragédie des communs, chacun, quand on partage, serait poussé à abuser de la ressource. Et en fait, elle a montré que, à partir notamment des communs naturels, que quand des gens partagent un pâturage ou partagent une forêt, en fait, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils établissent des règles pour éviter la surutilisation. Et il faut qu'ils soient capables de les appliquer, en fait. Il faut qu'ils soient capables de les autoproduire, ces règles, et il faut qu'ils soient capables de se les appliquer à eux-mêmes. Et ça implique aussi parfois des sanctions, en fait, hein. C'est-à-dire que si jamais vous enfreignez la règle et que vous prenez plus de bois dans la forêt que ce que vous deviez en prendre, le groupe doit être capable de sanctionner, en fait, ce qu'Ostrom appelait des passagers clandestins. Et donc, du coup, elle met en avant la question de la gouvernance, c'est-à-dire comment les communs sont gouvernés à la durée dans le temps. Et ça, en fait, ces principes-là, on les retrouve dans le numérique aussi. Si vous allez sur Wikipédia, on considère comme étant, voilà, une des choses qui ressemble le plus à un commun dans l'environnement numérique. Wikipédia, en fait, on a l'impression à première vue que n'importe qui peut écrire n'importe quoi, mais en fait, c'est une plateforme qui est extrêmement, je dirais, qui fonctionne sur la base de règles, et de règles très complexes, que la communauté des Wikipédiens, met en œuvre. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans Wikipédia, on peut se faire sanctionner si on abuse, si on saccage des articles, etc. Et dans les communautés du logiciel libre, il y a ça aussi, hein. Quand vous produisez un logiciel libre, on ne peut pas rajouter n'importe quelle ligne de code au logiciel. Il y a tout un processus de décision qui fait qu'on rajoute tel ou tel élément dans le code. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à.
Alors, petite interruption, mais nous étions en train de parler de la gouvernance donc sur les communs numériques et en particulier des règles de gouvernance et des règles de régulation de l'action sur Wikipédia en particulier. Et c'est vrai que Kalimac, donc tu nous expliquais que Wikipédia, ce n'était pas un commun dans le sens où on n'est pas juste en accès libre, on fait ce qu'on veut. Il y a des règles bien précises pour permettre justement la préservation de ce commun-là.
Oui, en effet, ouais. Wikipédia, ça permet de bien comprendre, je pense, ce que c'est qu'un commun numérique. On dit souvent que pour qu'il y ait un commun, il faut qu'il y ait une ressource partagée, il faut qu'il y ait une communauté, et il faut qu'il y ait des règles, en fait, de gestion. Et dans Wikipédia, il y a vraiment les trois éléments. La ressource partagée, c'est l'encyclopédie en elle-même, qui est sous licence libre. Tous les contenus sont réutilisables et modifiables, hein. C'est ça qui fait le wiki en lui-même. Il y a une communauté, qui est la communauté des utilisateurs, et il y a des règles. Et en fait, il y a des règles à plusieurs niveaux. Wikipédia, ils ont une sorte de manifeste général, c'est les cinq piliers de Wikipédia qui définissent ce que c'est que l'encyclopédie et quels sont les buts qui se fixent. Et ensuite, il y a des règles d'écriture des articles, et notamment, on connaît les fameuses guerres d'édition quand les gens ne sont pas d'accord dans Wikipédia. Ça provoque en fait une procédure spéciale d'arbitrage. Et là, vous avez un administrateur qui peut intervenir. Et les administrateurs de Wikipédia sont élus. Et ils n'ont pas vraiment de pouvoir de décision. Ça, je trouve intéressant. Ce n'est pas eux qui décident, mais ils déclenchent des procédures. Et quand vous avez un conflit sur un article, ils ouvrent la procédure de débat. Chacun peut s'exprimer. Les gens peuvent voter. Et en fonction du vote, on arbitre le conflit dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est intéressant. Et si jamais vous enfreignez certaines des règles, par exemple, supprimer un article sans raison, faire de la promotion, faire de l'autopromotion, etc. Vous pouvez finir par être sanctionné même sur Wikipédia. On peut vous bloquer votre compte, on peut vous bannir. Voilà. Et tout ça, ça fait une gestion en fait du commun qui est Wikipédia.
D'accord, mais ouais. Et puis en effet, toutes ces règles-là permettent finalement qu'à très très grande échelle, eh bien, donc, il y ait énormément des centaines de milliers de personnes qui puissent contribuer, s'organiser pour produire donc une ressource aussi complexe que Wikipédia. Et après, alors, il y a différentes échelles d'investissement aussi, hein, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas. Alors, il y a énormément de personnes qui, on va dire, qui consomment le contenu sur Wikipédia, mais peut-être le rapport entre contributeurs et puis consommateurs, si on peut dire comme ça, est assez déséquilibré. Mais l'idée, c'est que pour que davantage de personnes puissent justement s'investir et puis contribuer, il faut que chacun ait donc peut-être plus de temps et d'énergie à mettre dans cette entreprise-là. Alors, comment peut-on faire justement pour essayer de rééquilibrer sur le commun numérique, pour essayer de rééquilibrer un petit peu le rapport entre ceux qui vont consulter le contenu et ceux qui vont essayer d'y contribuer? Est-ce qu'il y a des modèles, justement, des modèles d'organisation, des modèles économiques qui peuvent permettre d'encourager plutôt de rééquilibrer ce rapport-là?
Oui. Ça, c'est un sujet intéressant, c'est-à-dire que les communs, il y a une différence quand même entre les communs naturels et les communs, on va dire, immatériels, les communs numériques. C'est que les communs naturels, ils ont une fragilité qui est liée à leur matérialité, justement. On peut en abuser, en fait, on peut surutiliser la ressource. Et alors que les communs numériques, ils ont une fragilité qui est un peu inverse. C'est-à-dire que souvent, ils déclinent par sous-utilisation ou faute de contributeurs. Il y a beaucoup d'ailleurs, Wikipédia alerte depuis plusieurs années sur la question. Il y a une sorte de pic dans les contributions dans Wikipédia. Et le nombre des Wikipédiens réguliers a tendance à plafonner en ça. Et ça arrive souvent aussi dans les communautés de logiciels libres. Vous avez des logiciels libres qui existent pendant un moment et beaucoup de projets meurent faute de contributions. Et donc du coup, pour les communs numériques, un des vrais sujets, c'est pas tellement la surutilisation, parce qu'on ne peut pas vraiment surutiliser une page de Wikipédia. Par contre, il y a une fragilité, une sensibilité à la contribution, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des contributeurs. Et pour qu'il y ait des contributeurs, ben, il y a plusieurs conditions. Par exemple, il faut que les gens aient du temps. Et mine de rien, c'est un vrai sujet, en fait. Quel est le temps dans nos vies dans lequel on peut contribuer à des projets libres, à des projets en commun? Quel est le temps entre le travail, par exemple, et nos vies privées? Quel est le temps dont on dispose pour avoir des contributions de ce type? C'est un vrai sujet de société même, en fait, hein. Moi, j'ai déjà écrit des choses sur ce que j'avais appelé un jour un droit à l'attribution. De la même manière qu'on a des droits, par exemple, à la formation, pourquoi on n'aurait pas un droit à la contribution, en fait? Ça pourrait exister, en fait, des choses comme ça. Sauf que ça n'existe pas. Et donc, du coup, ouais, c'est un vrai sujet, cette question de la capacité des individus à contribuer et à participer à des communs, notamment sur Internet.
Et oui, c'est ça. Et oui, finalement, quand on creuse cette question-là, on se rend compte que il y aurait besoin de tout un appui, justement, donc du droit, hein, comme tu le dis, de créer des nouvelles lois pour protéger cette dynamique de contribution, et puis peut-être aussi donc de modèles économiques pour que chacun puisse disposer des ressources, du temps, de l'énergie, donc pour pouvoir contribuer autant que le souhaite, hein, finalement. D'accord.
Oui. D'ailleurs, on voit que les projets qui durent sur Internet de grands communs numériques ou les projets les plus durables, en fait, il y en a de deux sortes. Soit c'est des projets qui font vraiment appel à des contributions, on va dire, amateurs, non professionnelles, type Wikipédia. Je pense aussi à OpenStreetMap, qui est comme ça. Un autre exemple de commun numérique sur Internet, hein, le service de cartographie alternative et libre à Google Maps, qui est fait vraiment par des amateurs, on va dire, des contributeurs. Et puis, il y a des projets qui nécessitent quand même des contributions plus professionnelles. Je pense un peu à ce que fait Framasoft, par exemple. Là, ils ont une stratégie où, eh ben, en fait, c'est une association qui a des salariés, et c'est des salariés qui développent leur projet, même s'il y a bien sûr des contributeurs extérieurs, mais ça repose quand même beaucoup sur des salariés. Et dans les modèles économiques, ça, il peut arriver aussi qu'il y ait des entreprises, en fait, hein, qui contribuent à des communs numériques. Aujourd'hui, un logiciel libre comme Linux, il est développé à plus de 90% par des contributeurs qui sont plus des amateurs, mais qui sont des salariés d'entreprise et qui ont un intérêt en fait à développer une ressource libre. Donc là, ça nous fait rentrer dans moi, ce que j'appelle l'économie des communs, qui est souvent plus complexe qu'on ne pense, hein. Il peut très bien y avoir des articulations avec le marché, il peut y avoir des articulations avec l'État aussi, et avec les communautés auto-organisées. C'est voilà, cette question de l'économie des communs, elle est assez subtile en fait.
D'accord, oui, ça englobe vraiment tous les acteurs de la société, qu'ils soient économiques, publics, il y a des questions de droit, d'économie, bien sûr, d'accord. Et à ce propos, alors, une dernière question peut-être au vu de l'heure et puis du temps que tu as déjà bien voulu nous accorder. Alors, lorsque l'on explore ton blog, donc Silex, on voit qu'il y a une rubrique qui s'appelle aussi donc Les communs d'abord, qui mène vers un autre site, en fait, hein, qui s'appelle Les communs d'abord, qui est un média web, où là, ça va être, si j'ai bien compris, c'est plus une activité donc de veille à propos des communs, c'est ça?
Oui, c'est un site qu'on a lancé parce qu'on s'est rendu compte en fait que la question des communs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle commence à être. Déjà, elle existe en France, hein, il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui s'en revendiquent. Ça peut être soit des gens dans les mouvements sociaux qui réclament des choses comme des communs. Voilà, il y a une activité militante, on va dire, autour des communs. Il y a des gens, par exemple, qui réclament l'eau comme un bien commun, qui défendent l'idée que l'eau doit être un bien commun. Il y a des gens qui font ça sur la forêt, sur le numérique aussi. Et puis, il y a aussi beaucoup d'activités de recherche. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs en France qui travaillent sur les communs. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de travaux de recherche sur ces sujets. Donc, on s'était dit avec ce site qu'il fallait essayer de mettre en visibilité un peu tout ça, et on fait donc une veille hebdomadaire sur le sujet. Qui nous permet de répertorier un peu ce qui se dit en France sur la question des communs.
Ouais, absolument. Et puis, ouais, c'est vraiment super intéressant, parce qu'en plus, voilà, ça permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit en plus actuellement. Là, je vois le tout dernier billet dans la catégorie plutôt débat. Donc, c'est toi qui l'as écrit, hein, qui s'appelle Leurs communs numériques ne sont toujours pas les nôtres. Donc, c'est à propos de ce que tu appelles le commons washing qui se fait actuellement sur des solutions qui auraient plutôt trait à du solutionnisme technologique. On en parlait dans une précédente émission. Ce billet-là donc traite de l'actualité vis-à-vis de la crise sanitaire et puis de l'application donc Stop Covid. Et oui, pardon, je sens que tu souhaites rebondir
Oui,
là-dessus.
peut-être juste dire un mot là-dessus. Ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est que bon, sur cette application-là très controversée là, de tracking numérique Stop Covid, le gouvernement avait commencé à dire qu'il voulait le développer comme un commun numérique. Et bon, en gros, ils veulent, et d'ailleurs ils ont commencé à le faire, hein, ils commencent à mettre le code en open source. Mais ça, si vous voulez, ce qu'on voit, ça suffit pas pour faire un commun, en fait. Il suffit pas que le logiciel soit simplement en open source pour que ce soit un commun. Dans la définition dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut qu'il y ait une communauté qui existe autour, et il faut qu'elle ait la capacité de s'auto-organiser pour fixer elle-même les règles. Là, sur Stop Covid, l'État, il aura beau mettre le logiciel en open source, c'est lui qui va fixer les règles et il va pas chercher à rassembler une communauté autour, hein. Donc ça, c'est toute une façon d'instrumentaliser le discours sur les communs. Et c'est pour ça que j'ai voulu réagir pour dire non, ça, c'est pas ce que nous, on appelle des communs numériques. Et à côté de ça, dans la crise, il y a des gens qui, eux, ont été vraiment dans la démarche des communs. Je pense notamment à tous les makers et les Fab Labs, voire même les couturières simplement, qui ont fabriqué des masques, du matériel médical, notamment en s'appuyant sur des plans partagés. Donc il y avait une dimension commune de la connaissance, ils ont partagé des modèles de plans, des choses comme ça. des modèles de matériel, et ensuite ils les ont fabriqués dans les Fab Labs en s'auto-organisant pour répondre au mieux aux besoins qu'ils voyaient autour d'eux. Et ça, en fait, c'est une vraie démarche de commun. Et comme par hasard, cette démarche-là, le gouvernement ne l'a pas tellement soutenue, si vous voulez. Vous voyez un peu le décalage.
Ouais, tout à
Donc,
fait.
ça, c'est un des risques, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui parlent des communs, mais je trouve aussi que le sens peut très vite se perdre. Pour les municipales, par exemple, il y a plein de listes de candidats qui s'appelaient telle ville en commun, voilà. Il y a même Paris en commun qui existe. Mais il faut bien regarder, hein, les gens qui se revendiquent de cette notion pour voir s'ils parlent vraiment de ce qu'on appelle un commun ou si c'est juste une manière d'enrober un discours.
Ouais, faire attention quand ce terme-là est galvaudé. Après, c'est vrai qu'on peut, ça peut peut-être nous faire accepter des choses alors qui ne sont pas justement des vrais communs avec une gouvernance partagée. Et c'est vrai que lorsque. Alors, tu parlais des médias, en effet, c'était fantastique, hein, tout ce qu'on a vu justement. Il y avait plusieurs plateformes, Fabrique commun, Covid 3D, etc., qui se sont mis en place pour essayer de subvenir aux besoins du plus grand nombre, hein, avec les masques, les visières, etc. Mais comme tu le disais, ouais, alors d'une part, le gouvernement n'a pas soutenu ces démarches-là, et puis c'est Olivier Hirscheid aussi qui proposait une analyse de ce qui s'est passé par rapport à une plateforme en particulier, donc Covid 3D, qui a dû s'arrêter finalement. Hein, pour des risques donc de, alors en premier de non-respect de normes vis-à-vis de ces visières, mais il y a toute une histoire aussi de non-concurrence. Enfin voilà, il y a tout justement ce que tu disais, hein, toute la partie économique aussi du marché entre en jeu ici. Et la question c'est, eh bien, de ton point de vue de juriste, est-ce que tu penses que il pourrait y avoir des lois qui pourraient protéger plutôt ces initiatives comme ça de solidarité des makers?
Alors oui, il y a des pistes hein, quand même hein, intéressantes d'ailleurs. Dans d'autres pays, notamment en Italie, la question des communs, elle est beaucoup plus présente qu'en France, et notamment au niveau des municipalités, où ils ont mis en place des systèmes pour faire des partenariats avec les citoyens et les laisser justement s'auto-organiser pour prendre en charge directement des sujets ou des activités. Et ça, en fait, ça pourrait être transposé en France. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui commencent à y réfléchir pour justement les makers, les Fab Labs, et pour essayer de cadrer en fait leur contribution dans ces périodes de crise. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Et je pense que, notamment en France, ce serait intéressant parce qu'on a une tradition administrative et d'État très centralisée, assez hostile en fait hein, à l'auto-organisation des citoyens. Et donc du coup, il faudrait tester ces formules. En Espagne aussi, il y a une tradition beaucoup plus favorable aux communs qu'en France, parce qu'ils n'ont pas la même histoire de construction de leur État. Donc, ouais, ça vaudrait la peine de regarder plus attentivement ce qui se passe dans ces pays-là et de s'en inspirer en France.
Ok, entendu. Ben, écoute, on partira sur cette piste d'études et Kalima, qu'on va te libérer déjà. Merci beaucoup pour le temps que tu as pu nous accorder. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour comprendre un petit peu mieux en quoi consistent les communs et les communs numériques.
Merci à vous.
Ouais, bah merci beaucoup Kalimak, à la prochaine.
Au revoir.
Au
Salut.
revoir.
Au revoir, Kalima. Alors, nous voilà entre membres donc de Picassoft pour poursuivre un petit peu l'échange. Alors, Calimax terminait sur l'idée que c'est vrai qu'on a des histoires différentes hein, entre la France, l'Italie et l'Espagne. Et donc, à partir de ces histoires, on va avoir des conceptions du commun et de ce qu'il est possible de faire qui sont différentes. Mais on peut repartir donc un petit peu dans l'histoire pour comprendre justement en quoi consistent les communs, d'où viennent. Enfin, d'où vient l'idée des communs et puis comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu plus ce concept-là avant de repartir donc dans la question des communs numériques que Calimac nous a permis déjà de bien comprendre. Alors, mais informellement, donc qu'est-ce qu'un commun au départ?
Alors, pour définir un commun, on va donner une définition assez traditionnelle, assez naïve. On peut déjà dire que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la logique d'individualisme et de la séparation de ce qui est marchand et de ce qui n'est pas marchand. Et on peut dégager quatre critères en fait. Donc déjà, il y a le critère d'avoir une ressource, il faut avoir quelque chose à mettre en commun. Et cette ressource, bon, on a vu, il y a une distinction qui, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, entre le matériel et l'immatériel, donc un peu plus poreuse que cette simple distinction entre matériel et immatériel. Il faut aussi avoir des règles d'utilisation de ces ressources, hein. Il ne faut pas seulement avoir une ressource, il faut aussi avoir une communauté derrière, et il faut que cette communauté soit auto-organisée et puis capable en fait, de se fixer des règles, donc d'avoir un mode de gouvernance. On peut peut-être donner quelques exemples de communs. Donc, on a déjà les AMAP, assez connus. On a aussi, on en a parlé avant en interview, on a aussi Wikipédia. On peut peut-être aussi prendre un exemple de service en ligne proposé par les chatons, donc Peertube, qui prend un peu toutes ces caractéristiques. Et aussi un exemple peut-être un peu moins connu, donc Open Source Ecology. C'est un projet de construction en fait d'un kit pour la construction d'un village, donc qui répond aussi à ces caractéristiques. Il y a plusieurs distinctions à faire, donc notamment entre commun, bien commun et bien public. Alors, déjà, certaines personnes évitent d'utiliser le terme bien, puisque, comme on l'a vu, en fait, il ne faut pas se concentrer sur la ressource en tant que telle, mais plutôt sur le côté gouvernance et politique qu'il y a derrière. Et en plus, le terme bien est très connoté marchandisation. Donc, certaines personnes préfèrent ne pas du tout utiliser, donc parler de commun. Et ensuite, il faut aussi faire la différence entre bien commun et bien public, notamment sur le critère de rivalité, puisque un bien public, c'est un bien en économie qui est dit non rival. Donc, c'est-à-dire que quand une personne va l'utiliser, ça ne va pas priver les autres personnes de l'utilisation de ce bien. Tandis qu'un bien qui est rival, donc dans le sens d'un commun, il y a une certaine notion de rareté derrière, une rareté de la ressource, et c'est de là que vient la nécessité de définir des règles qui vont permettre de réguler en fait l'usage de cette ressource. Donc on l'a vu, le commun peut prendre plusieurs formes, des formes diverses. Donc ça va par exemple du jardin qui est partagé entre plusieurs personnes. Qui est mis à disposition par l'État, par exemple, ou par un particulier, ou encore un jardin qui peut être géré par des citoyens en association, loi 1901, ou en un collectif plus informel. Peut-être que j'ai vu que Quentin avait écrit quelque chose qui veut peut-être rebondir là-dessus. Il avait dit qu'il fallait faire la distinction entre les biens communs et qui n'est pas forcément le bien commun.
Oui, non, bah c'était juste simplement parce que bien commun, on peut l'utiliser à la fois dans le sens pour le bien de toutes et tous, mais un bien commun dans le sens où on l'entendait, il faut bien faire la différence. Le bien commun n'a pas forcément pour critère de devoir être utilisé pour faire le bien, c'était juste pour faire cette distinction-là.
Ok, merci.
Ok, et donc bon, on a vu cette donc l'idée des communs là aujourd'hui, elle est bien présente en ce moment actuellement, mais est-ce que enfin c'est une idée qui existe depuis longtemps ça? C'est une idée qui existe depuis quand?
Bah, en fait, c'est une idée qui est depuis assez longtemps. Là, comme on l'a vu, on a quand même bien insisté sur ce qui est aujourd'hui considéré comme un commun. Et si, en fait, on a autant insisté et que Kalimak a, merci à lui, bien développé cette idée, c'est parce qu'au fil de l'histoire, l'idée de commun a pris différentes formes. Alors, je vais passer sous silence certains détails, mais une des premières, on va dire, références qu'on retrouve au niveau des communs, bah, c'est dans l'Antiquité. En fait, à l'époque, Platon considère que les gardiens de la cité idéale ne possèdent que les objets de première nécessité, mais en revanche, ils partagent l'habitat, les possessions matérielles plus générales, ainsi que les repas, et ils reçoivent leur nourriture des autres. L'éducation des enfants, ici, est aussi vue comme un commun. Elle appartient à l'ensemble des citoyens, elle est la responsabilité de l'ensemble des citoyens. Donc, le bien commun, c'est plus ici un mode de propriété qui est censé assurer l'harmonie collective que une ressource qui serait partagée par tous selon un mode de gouvernance. Alors, là, on voit qu'il y a quand même un côté relativement politique, puisque le but, c'est d'assurer l'harmonie collective. En revanche, dans le droit romain, on retrouve une autre idée qui est moins politique. C'est la notion de res communis. Je n'ai pas fait de latin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, en français, ça veut dire chose publique. Et là, on retrouve limite plus l'idée de bien public. Ça désigne les choses qui appartiennent à tous, mais ne peuvent pas appartenir à quelqu'un en particulier, donc par exemple la mère. Alors, en fait, un peu plus tard, on se rapproche plus du commun tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Donc, Hervé Le Crosnier qui a fait une sorte de rétrospective des communs et qu'on avait eu le plaisir de recevoir tout au début de La Voix est libre. Il décrit l'histoire de communs à partir de plusieurs points, et pour lui, le moment bien particulier marquant dans l'histoire des communs, c'est au Moyen-Âge, où on trouve cette idée que dans les campagnes anglaises, par exemple, les paysans avaient le droit de couper du bois, de récolter du miel, ou d'aller mettre leurs animaux paître sur des terrains communaux. Pardon. Et ces terrains communaux sont gérés en commun, ils ne sont pas délimités par des clôtures, et ils appartiennent à personne en particulier. Donc là, on voit que c'est quelque chose qui se rapproche un peu plus de ce qu'on a aujourd'hui.
Ok, mais c'est à partir de ce moment-là que ça se corse un peu pour les communs, c'est ça ?
Eh bien, ouais, effectivement, malheureusement, à partir du 15e siècle, donc la production et le commerce mondial de laine va se développer, et ces fameux terrains communaux anglais vont être clôturés et réservés aux moutons et administrés en fait par les riches propriétaires. Et on va appeler ce mouvement-là donc le mouvement des enclosures. Et donc, c'est faire référence au fait de poser des barrières et des autour des champs, donc privatiser plus ou moins. Du coup, les anciens biens communs vont être enterrés législativement. Et donc, aussi en exemple, on peut citer les publications scientifiques qui, historiquement, ont été libres. Et aujourd'hui, elles ont été appropriées par des éditeurs de revues, donc on en connaît. On va voir dans cet exemple que des champs, que les communs, en fait, ce ne sont pas une fantaisie moderne, c'est quelque chose qui était bien là avant. Et simplement, avec le développement du libéralisme économique qu'on a aujourd'hui, ça s'est accompagné d'une législation qui facilite son expansion. Donc, depuis, les communs, aujourd'hui, ils sont bien connus pour une expression très célèbre. Qui est celle de Tragédie des communs. Et donc ça fait référence à un article assez célèbre qui a été publié dans Science en 1968 par Garrett Hardin. Désolé si je prononce mal le nom. Donc c'est un écologue américain. Et l'idée principale, en fait, c'est que l'humain est incapable de gérer un bien commun. Et en fait, il prend comme exemple l'exemple du pâturage. Et il dit qu'en fait, quand ce pâturage est laissé en libre accès, ça ne fait qu'inciter en fait chacun des bergers à maximiser ses bénéfices à lui pour ses propres intérêts, ses bénéfices sur du pâturage, qui viennent du pâturage. Et du coup, il va essayer d'y mettre un maximum de bêtes et du coup conduire à la destruction du pâturage puisqu'il n'y aura plus assez d'herbe. Et donc du coup, peut-être que Quentin veut faire une métaphore avec le dilemme du prisonnier.
Ouais, en fait, moi, ça me faisait vachement penser au dilemme du prisonnier, qui est assez célèbre en théorie du jeu, où, pour résumer brièvement, on a deux personnes qui sont arrêtées et mises dans des cellules où elles ne peuvent pas communiquer. Et en fait, on va leur laisser deux choix, soit de dénoncer leur complice, de dire effectivement l'autre personne est coupable, soit de ne rien dire. Et en fait, en fonction des réponses des deux personnes, eh bien, si jamais elles se dénoncent mutuellement, elles vont écoper d'un prison. S'il n'y en a qu'une qui dénonce l'autre, eh bien, la personne qui n'a pas été dénoncée va pouvoir être libre et l'autre va écoper d'énormément de prison, puisqu'on considérera que c'est le seul coupable. Et si mutuellement les deux personnes ne se dénoncent pas, à ce moment-là, elles sont libres. Et en fait, dans ce dilemme-là où personne ne se parle, la meilleure solution, quoi qu'il arrive, c'est de dénoncer son complice. Parce que si on ne dénonce pas, il y a un risque de se faire dénoncer et de prendre le plus gros tarif. Alors que si on dénonce, bah, finalement, on prendra toujours moins que si on ne dénonce pas. Donc, je trouve qu'il y a un peu cette logique de j'ai cet espace commun. Non seulement, bien sûr, si je mets plein de bêtes dedans, je vais maximiser mes bénéfices, mais en plus, j'empêche les autres personnes de mettre plein de bêtes dedans et de m'empêcher de jouir de ce commun. Voilà, c'était juste pour
ça. Finalement, c'est la logique individualiste qu'il y a derrière, et on aurait peut-être intérêt à tous coopérer, mais puisqu'il n'y a pas de discussion, en fait, on va maximiser son propre profit à soi, quoi.
Ok, mais ça c'est terrible, ça veut dire qu'aucun commun ne peut fonctionner alors sur le papier, mais bon, on a vu qu'il y avait un bon nombre de communs qui fonctionnaient vraiment, alors c'est quoi le truc, c'est quoi, comment ça peut fonctionner malgré cette tendance à l'individualisme-là?
Bah écoute, en fait, pour Ardyn, hein, en tout cas, il n'y a que deux solutions pour les communs, c'est soit la privatisation, soit la nationalisation. Et à tel point que cette idée, elle est devenue une référence pour les économistes et les écologues de tout genre. Et en fait, on se rend compte que historiquement, elle est venue aussi à point nommé pour justifier la propriété privée d'une part, et de l'autre côté, la gestion des ressources par l'économie de marché, ou encore la gestion par les États, de l'eau, de la mer et des forêts. Donc en fait, on sort de la définition de bien commun. Mais pourtant, on vient de citer d'autres communs qui fonctionnent bien. Alors, finalement, où est le problème? Est-ce que Hardin a bien étudié toutes les situations? Eh bien non, hein, comme le rappelait Callimach pendant l'interview, Elinor Ostrom, une économiste américaine qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2009. Eh bien, elle étudie la gestion des biens communs de manière empirique plutôt que de manière théorique, donc en basant ses études sur une multitude d'observations, des observations de terrain. Et elle découvre dans ses études que les communautés humaines, pardon, sont bien capables de gérer des communs. Donc des exemples que Callimach nous a déjà donnés, hein, des pêcheries, des systèmes d'irrigation, des nappes phréatiques, des forêts. Mais mieux, encore plus que simplement réussir à gérer ses communs, elle peut les gérer de manière plus efficace et plus durable que la gestion de ses communs par le marché et par l'État. Et en fait, l'arnaque, elle se situe dans le fait que si on regarde bien l'exemple de Hardin, donc l'exemple du pâturage où chaque berger favoriserait son intérêt individuel, et le rapport avec le dilemme du prisonnier, eh bien on se rend compte que il ne tient que si on considère les éleveurs comme des individualistes dont le seul intérêt, c'est la quantité de capital amassé individuellement et qui ne se parlent pas entre eux. Forcément, dans ces conditions, il n'y a pas de coopération possible. Donc en fait, on se retrouve plus sur quelque chose qui ressemble à un pâturage en libre accès, mais sans aucune règle et sans communication entre les utilisateurs, plutôt que comme un commun. Il y a vraiment confusion entre les deux. Et donc on se rend bien compte qu'une théorie qui est fondée sur une modélisation qui restreint autant l'humain ne peut qu'aboutir qu'à un modèle qui est déconnecté de certaines réalités, et en particulier de la réalité des communs qu'Ostrom a constaté sur le terrain. Donc, Ostrom, de ses recherches sur le terrain, va définir 8 critères qui permettent de construire un mode de gouvernance démocratique, auto-organisé, pour gérer un commun. Et on retrouve des exemples qu'on a déjà donnés, comme les règles, régissent l'usage des biens collectifs. La capacité des individus du groupe à modifier ces règles et à les créer, donc là on a cette idée d'auto-organisation, système du contrôle du respect de ces règles, hein, avec des sanctions graduées, et par exemple un mécanisme de résolution de conflits qui est peu coûteux. Donc typiquement, on avait l'exemple avec Wikipédia que nous donnait Callimach. Lorsqu'il y a beaucoup de modifications sur une page et que les gens ne sont pas d'accord entre eux, eh bien une personne va pouvoir déclencher des mécanismes de discussion pour essayer de régler le problème. Donc, on passe, pour résumer, d'une théorie qui est basée sur une espèce de chimère de l'homo economicus qu'on retrouve dans toutes les théories économiques classiques, et puis également dans cette idée d'une personne qui veut maximiser ses intérêts individuels et ne pas communiquer avec les autres, communiquer, pardon, avec les autres. On passe d'une théorie basée sur cette chimère à des observations empiriques qui mettent en lumière, d'une part, la créativité des humains pour gérer leurs biens communs, d'une part, d'autre part, pardon, l'efficacité de la gestion auto-organisée des biens communs par rapport à certains cas dans une économie de marché. Bon, alors, là, on a quand même beaucoup donné d'éléments sur les communs et leur histoire. À la base, on était censé parler de communs numériques. Du coup, c'est quoi le rapport entre Picassoft, donc nous, on fait quand même essentiellement de la sensibilisation numérique, et toute cette histoire de communs?
Bien, c'est vrai que on peut se demander comme ça, mais si on essaie de changer un petit peu notre perception des communs, c'est-à-dire que si on essaie de se détacher un petit peu de la focalisation sur la ressource et puis qu'on passe sur l'idée qu'un commun c'est avant tout du faire ensemble, c'est avant tout de l'action collective, l'envie de faire ensemble, et bien là on va pouvoir se ramener un petit peu plus sur les communs numériques et puis sur ce qu'on fait à Picassoft. Alors c'est Hervé Le Crosnier en particulier qui insiste là-dessus, hein, qui dit que voilà, c'est pas tant sur la ressource qu'on doit se focaliser, mais que pour comprendre ce qu'est un bien commun, on doit se focaliser sur la capacité, l'envie de faire de l'action collectivement. Et en effet, on en parlait avec Christophe Mazzutti même dans une émission sur la surveillance, lorsqu'il parlait de la perspective d'une société de contribution, hein, comme ouverture. Et on peut faire le lien donc avec le commun, c'est-à-dire que pour pouvoir contribuer à un commun à des échelles locales, donc c'est des ressources locales, et puis aussi à l'échelle plus générale, plus grande, comme l'exemple de Wikipédia, eh ben, il y a un enjeu de confiance et puis de partage des savoir-faire en même temps. Alors, dans le contexte des communs numériques, moi j'aime bien la présentation de la confiance froide et de la confiance chaude, telle que fait Stéphane Crozat dans son article Confiance en la machine, des logiciels libres à la littératie numérique. C'est un des articles qu'il a publié sur son site As We May. Et dedans, il parle de à la fois développer la confiance froide par le comprendre, et de développer en parallèle la confiance chaude par le faire ensemble. Et c'est vrai que pour les communs et les communs numériques, et donc là en particulier à Picassoft, la notion de communauté est primordiale pour espérer donc un engagement dans la préservation de la ressource, une part de responsabilité, hein, donc, pour éviter aussi toute la tendance de l'individualisme, et aussi un désir de mettre son énergie au service d'un bien qui va être partagé avec les autres. Et la seconde hypothèse de ça, c'est bien que c'est par l'acquisition de savoir et de savoir-faire qu'on va avoir davantage confiance, eh bien, dans le système, dans le service numérique en l'occurrence, et puis qu'on aura également la capacité de contribuer et l'envie de le faire. Voilà. Et donc on peut transposer la construction de cette confiance dans un service numérique à la confiance dans nos moyens de production. Hein, si on pense au commun, donc même. Sans parler de commun numérique, pourquoi on peut se demander pourquoi aujourd'hui, par exemple, par rapport à la crise sanitaire, il y a eu une si grande crainte partagée de manquer des ressources de première nécessité au début de la crise. Eh bien, on peut se dire, on peut poser l'hypothèse que c'est parce que, eh bien, nous n'avons pas confiance dans la stabilité de ce système-là, parce que, eh bien, d'une part, sans la connaissance des processus de production de ces ressources, c'est-à-dire ce qui correspond à la confiance froide, ni la connaissance au sens de connaissances humaines, hein, ni la connaissance de personnes qui sont responsables dans cette chaîne-là, donc la confiance chaude, eh bien, l'individualisme peut prendre le dessus. Donc c'est pour ça que, après, pour permettre à la fois une meilleure préservation des ressources, enfin, donc des communs et puis des communs numériques, donc on l'a dit, hein, c'est aussi une urgence écologique aujourd'hui. Eh bien, le modèle des communs et donc la confiance que l'on va mettre dans enfin, que permet ce modèle-là, est ce qui permet aussi donc une plus grande résilience des organisations sociales en cas de crise, quoi. Voilà, donc pour faire le lien avec Picassoft, ben, on va se reposer sur la conclusion de l'article de Stéphane, hein, qui dit les services de Picassoft sont des communs. Ils ne sont pas forcément mieux, mais nous comprenons comment ils fonctionnent et ils sont à nous, c'est-à-dire que nous en avons la gestion, le contrôle, la responsabilité, etc. Et vu qu'on a bien parlé des communs et puis finalement que l'émission s'est assez allongée, je vous propose, si vous le souhaitez, Quentin et Romain, qu'on se rejoigne pour une deuxième émission pour aborder davantage encore les communs numériques et puis proposer quelques pistes pour les développer encore davantage.
Ça serait super.
Bah ouais, carrément. On peut se dire qu'on fait un petit point, un très rapide point de mi-parcours. Donc, on a vu que la notion de bien commun et de commun, elle est souvent confondue avec la notion de bien public, hein. On pense souvent aux biens communs comme l'air, l'eau, la mer. Mais en réalité, un commun, c'est pas seulement un bien public ou quelque chose qui est utilisable par tous, mais il y a des critères très importants et même centraux de communauté, une communauté auto-organisée, démocratique, capable de résoudre ses conflits et capable de mettre en place un mode de gouvernance qui soit relativement facile à appliquer. Alors, si on a régulièrement, en tout cas instinctivement, cette distinction entre communs matériels et communs immatériels, finalement, les communs immatériels, comme nous l'a rappelé Callimaque, sont souvent s'appuient sur des structures matérielles, et donc cette distinction, elle n'a pas forcément lieu d'être. Sauf évidemment dans le numérique où les communs numériques n'ont pas cette notion de rareté. Donc c'est plus un problème de qui va contribuer, comment, par quelles règles qui va se poser, que de est-ce que les personnes vont avoir une utilisation équitable de la ressource. Alors on l'a vu aussi entre l'opposition classique entre Hardin et Ostrom, que l'idée que les êtres humains, pardon, sont incapables de gérer un commun vient sûrement du fait que sans lien de confiance, sans communauté et sans communication, sans but, eh bien, on n'arrive pas à construire un modèle de confiance, un cadre agréable et en tout cas un cadre qui rend possible la gestion de ces communs. Et donc, dans la prochaine émission, on pourra être amené à développer cette idée de lien de confiance et on alertera également sur les possibilités qu'ont les systèmes dominants, à savoir le système capitaliste et néolibéral, de récupérer cette notion de commun dans son propre intérêt. On donnera des exemples et puis on essaiera de voir quel cadre est nécessaire pour que les communs, qu'ils soient numériques ou non, puissent émerger, se développer tranquillement, voire participer à un changement de paradigme.
Ah, et bah écoute, après ce magnifique teasing, je te propose, Romain, de lancer le quiz.
Alors la question aujourd'hui c'est pourquoi peut-on considérer que les services de Picassoft sont des communs numériques? Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont en libre accès ou parce qu'ils sont mis en commun avec ceux d'autres chatons sur la plateforme entraide.chaton.org parce qu'ils sont gérés par une communauté qui est ouverte et avec des règles et une gouvernance qui est bien définie ou alors parce que ce sont des logiciels libres? Voilà, peut-être que Quentin, tu fais la musique.
Et bah carrément, avec plaisir, je crois que c'est Audrey qui a sélectionné la musique pour cette fois-ci. Donc on va écouter le morceau Love Won't Let You Down de Ali Faris. Oui, je ne sais pas, qui est en licence CC BY NC SA. Et on se retrouve juste après cette musique. Bonne écoute!
Seeing red lights, got your heart broke, breathing in shame and smoke. Don't lose hope that it might turn around. Well, you ran from me and my apologies. All the stars in the sky fell down.
Thank you.
Donc c'était Love Won't Let You Down de Alice Faris en licence CC by NCSA. Et c'est l'heure de la réponse au quiz. Donc la réponse c'était parce que... Alors je rappelle la question. Pourquoi peut-on considérer que les services de Picassoft sont des communs du numérique? Et donc c'était parce que nos services sont gérés par une communauté qui est ouverte. Vous pouvez nous rejoindre sans problème. Et on a des règles et une gouvernance qui est bien définie. Donc Audrey, peut-être que tu peux annoncer les liens pour cette semaine?
Ouais, bah en premier, donc on va vous donner le blog de Calimac, donc qui s'appelle SILEX. Vous le trouverez ça sur siinfolex.com, siinfolex.com. Ce qui est intéressant d'aller voir aussi, c'est bien sûr le collectif Savoir Commun, donc Savoir, Savoirs, COM, 1 en chiffres, point info, et les communs d'abord. Les communs d'abord avec des tirets du 6, c'est-à-dire LES-commun au pluriel-DABORD.org. Voilà. On remercie beaucoup, beaucoup encore une fois Calimac de son intervention dans l'émission. Merci Romain et Quentin pour aujourd'hui. Et puis écoutez, on se retrouve donc pour une seconde émission sur les communs numériques.
Merci à toi,
Merci à
Audrey.
tous.
Bonne journée et à la prochaine.
Bonne
Ciao.
journée. Salut.
Bonne journée, salut.